Vous écoutez France Culture.
France Culture, 18h10, tout juste, tout de suite, les retours de dimanche, présentés par Agnès Chauveau et Martin Canéen. Bonne émission à vous.
Merci Anne Coudin, bonsoir.
Bonsoir.
Écoutez les retours du dimanche qui ce soir vous parle de Wikileaks, transparence et surveillance dans la civilisation.
Bonsoir Agnès Chauveau.
Bonsoir Martin Canéen. Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, poursuivi pour viol et violence sexuelle, est emprisonné à Londres. Le désormais célèbre site de fuite est contesté de toutes parts. Et Obama vient de fustiger officiellement les actes déplorables de Wikileaks. Mais le site est aussi défendu par des pirates informatiques qui déclenchent des cyberattaques. Et plus surprenant, par Vladimir Poutine. Des sites miroirs répliquent le contenu de Wikileaks qui compte sur Facebook plus d'un million de fans. OpenLeaks, un concurrent, promet de nouveaux dévoilements. Le débat sur la transparence fait rage alors que la polémique sur la surveillance globale des citoyens continue de courir. Les opposants aux scanners corporels dans les aéroports dénoncent cette fouille au corps virtuelle et le FBI s'inquiète de la Barbie Video Girl dont la caméra enregistre les faits et gestes des petites filles.
Au-delà des scoops de seconde zone sur lesquels s'affairent des plumitifs de tous les pays, les cris d'orfraie poussés par les chancelleries des États démocratiques infiltrés par les wiki-fuites sont-ils le symptôme d'une crise politique? Les piqûres de moustiques des hackers libertaires contre les sites internet des World Company annoncent-ils une guerre cybernétique au nom du droit à l'information? Et puis, que dire des entreprises avides de données personnelles qui continuent leur moisson en toute discrétion? Que penser enfin de notre propre comportement, nous, simples quidam, balançant entre résistance et striptease servile et consentant sur les réseaux prétendument sociaux?
Pour parler de ces secrets que nul ne saurait plus garder, les retours du dimanche ont fait appel à un spécialiste de la surveillance globale, l'écrivain et essayiste Éric Sadin.
Au cours de notre exploration du grand malaise digital, les retours de ce dimanche 12 décembre parleront aussi des précipitations neigeuses sur les routes de l'imaginaire terroriste dans les aérogares et de la poitrine invisible du marché que Bruxelles hésite à dévoiler. Mais tout de suite, c'est l'heure du journal sonore de Yacine Bouzard, son retour sonnant et trébuchant sur l'actualité de la semaine écoulée.
Your Majesties. Votre Majesté, Excellences, Mesdames et Messieurs, il n'a pas été possible, comme vous le savez, pour Liu Xiaobo et ses proches de venir à Oslo pour recevoir le prix Nobel.
Nous, on a le sentiment aujourd'hui que Wikileaks a pris une place qui n'existait pas jusque-là dans la chaîne de l'information. Un peu comme si Wikileaks avait créé un maillon supplémentaire entre la source de l'information et le journaliste.
Voici le jouet qui inquiète le FBI, la Barbie Video Girl. Cette poupée high-tech, équipée d'une mini-caméra sur sa poitrine, peut enregistrer jusqu'à 30 minutes de film téléchargeable sur Internet. La crainte des autorités américaines, c'est que certaines images prises par des enfants se retrouvent à la portée de pédophiles.
On m'avait suggéré qu'il fallait que j'achète à Marseille des chasse-neige. Dois-je dire aux Parisiens et aux autorités à Paris, peut-être vous devriez y songer.
Imparfait, plutôt faible et vague, l'accord de Cancun a au moins un mérite, avoir restauré la confiance dans le processus onusien, le multilatéralisme. On ne donnait pas très cher de sa peau à l'ouverture de Cancun après le traumatisme l'an passé de Copenhague. Like
bonsoir Éric Sadin.
Bonsoir.
Alors Éric Sadin, Julian Assange est considéré soit comme un Tom Sawyer des temps modernes par ses défenseurs, des geeks, des libertaires, soit comme l'ennemi public numéro un par les États, notamment. Et alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que véritablement on assiste à un affrontement de deux mondes? L'historien Milad Douéhi écrit que l'affaire Wikileaks est un symptôme de notre rapport à la culture numérique, qu'il traduit une nouvelle fracture numérique entre politiciens et citoyens. Qu'en pensez-vous?
Bon, alors sur cette fracture-là, moi je n'en suis pas si sûr, mais si vous le voulez bien, je pense qu'il faut un peu décomposer les actions opérées par Wikileaks ces dernières années. Savez-vous, par exemple, qu'ils ont mis en ligne, qu'ils ont divulgué des carnets secrets de la scientologie? Alors ça, moi, je dirais, a priori, c'est plutôt une sorte de mission de journalisme d'investigation où ils ont mis à disposition du public des choses qui sont peut-être bienvenues de savoir, avec des effets d'abus à l'égard de personnes faibles, psychologiquement en détresse, etc. Ils ont mis aussi des informations relativement à des activités des cellules souches illégales en Russie. Alors là aussi, on peut dire c'est de l'information utile. Alors il y a les Warlocks, il y a cette affaire de vidéo, et puis il y a les câbles diplomatiques. Alors moi, ce que je veux juste relever d'entrée, et c'est une façon de répondre obliquement à votre question, c'est à quoi avons-nous affaire là ? Y a-t-il une sorte de pertinence homogène, de cohérence, ou est-ce qu'on a affaire à une série d'actions qui voudraient que tout ce qui est un peu opaque, à juste titre ou non, va être rendu visible ? Alors, je pense que ça, c'est une dimension de la mission, en tout cas des activités hétérogènes qui ont pu être entreprises par Wikileaks, qui n'ont pas été assez relevées. Et il me semble que, avant éventuellement d'évoquer une quelconque fracture entre politique et citoyens d'ordre numérique, moi, je pense qu'il faut relever d'abord un phénomène extrêmement important, c'est l'asymétrie. C'est-à-dire qu'on est dans un jeu d'asymétrie totale. Vous savez que c'est une notion très à la mode, les conflits asymétrie, l'asymétrie. Mais là, à quoi avons-nous affaire ? Je suis tenu de répondre obliquement à votre question. Hein. Mais à quoi avons-nous affaire ? C'est un groupe, je pense que trois mains, 15 doigts suffisent pour compter le nombre de personnes à l'œuvre. Hein. C'est-à-dire que c'est rien du tout. Et qui font un peu trembler, alors j'entends trembler par le fait des effets, des commentaires, des craintes, qui font un peu trembler la terre entière, mais c'est ce petit groupe composé par Wikileaks et Assange. Je pense aussi en amont, en préambule là dans notre conversation, qu'il faut pas oublier de rappeler de qui il s'agit. Et moi, je vais juste rappeler que Assange a ébauché une sorte de petit pamphlet essai il y a quelques années qui s'intitulait « La conspiration comme mode de gouvernement ». C'est quand même lui qui a signé ça. Et où il évoque le fait que des fonctionnaires dans la démocratie, entendez ce que je vais dire, collaborent en secret et en œuvrant au détriment de la ou des populations. Vous voyez, il y a un a priori idéologique extrêmement marqué, d'esprit. Alors après, il peut y avoir d'autres vertus dans ce qui est fait. Hein, quand on évoque cette affaire de cellules souches ou de carnets secrets de la scientologie qui sont divulgués, là, je pense qu'il y a quelque chose qui peut être bienvenu. Mais en amont, à l'origine de cette affaire, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une méfiance absolue à l'égard, mais une méfiance radicale, de l'ordre d'une perception conspirationniste, puisqu'il l'a écrit lui-même, je n'invente rien. Hein. Ce que j'évoque là, je l'ai lu dans Books, par exemple, où il y a un article passionnant du New York Times sur l'histoire récente de Wikileaks.
Mais justement, Éric Sadin, je pense que ça nous amène à aborder la dimension politique, toute la dimension politique, oui, de cette affaire Wikileaks, puisque là, on vous sent ambivalent entre un certain enthousiasme quand au combat démocratique de Julian Assange, ce fondateur australien de Wikileaks, et puis en même temps un peu dubitatif quant à ses tendances paranoïaques et conspirationnistes. Justement, si on aborde la dimension politique et qu'on s'intéresse à une éventuelle fracture politique entre gouvernants et gouvernés, oui, que révélerait cette affaire Wikileaks, on se rappelle qu'à l'origine, la démocratie requiert en principe la transparence des gouvernants, qui sont appelés hommes et femmes publics, et que elle se doit aussi, en principe, de garantir le secret, le droit au secret pour les gouverner. Or, depuis quelques décennies, vous parlez des fonctionnaires accusés par Julian Assange d'œuvrer au détriment des populations.
De délire, hein, nous sommes d'accord.
Mais en tout cas, ce qui n'est pas de l'ordre du délire, c'est peut-être que certains gouvernants sont tentés d'imposer, d'exiger une transparence de leurs citoyens à travers un certain nombre de mises en fiche, de fichiers. Il y avait le fichier de Vige il y a quelques temps qui a beaucoup fait parler de lui. Et est-ce que la réponse que qu'offre Wikileaks aujourd'hui en mettant sur écoute, en imposant la transparence aux gouvernants, gouvernant à leur tour, n'est pas une réponse en miroir de ces gouvernés qui n'en peuvent plus d'être contraints à la transparence?
Alors je pense que cette équivalence pourrait presque d'abord relativiser les procédures des uns et les procédures des autres. Je pense que ça mérite un examen spécifique. Et puis c'est une façon de renvoyer comme ça, de renvoyer dos à dos et surtout d'occulter les problématiques en jeu. Alors, Ce qu'on peut dire déjà, c'est que, alors ça c'est social, c'est culturel, même si on veut aller plus loin, c'est anthropologique, nous sommes dans un environnement général marqué par un sentiment de défiance. Comme dit Pierre Rosanvallon dans un de ses essais, la défiance.
Michela Marzano, le contrat de défiance
voilà.
également.
Alors, il y a quelque chose de très très marqué dans nos sociétés. On peut un peu le dater d'une à la fois de 2001, à la fois des premiers sommets des G8 où il y a eu des oppositions de type altermondialiste. En gros, du milieu des années 90, où il y a eu un mouvement comme ça de défiance à l'égard des institutions. Et 2001 a créé, pour répondre à votre question, 2001 a créé des effets d'intensification, de scannage des citoyens en vue de consolider les effets de sécurisation des territoires. Donc, vous voyez, là, il y a et l'un et l'autre. Mais cet environnement-là, alors, qui s'inscrit aussi dans le cadre, je pense que ce qui a été nommé Web 2.0, ce n'est pas qu'un slogan, ça s'inscrit à l'intérieur de cette dimension que nous avons nommée participative, c'est-à-dire, il y a de la défiance, il y a de la méfiance. Et dans le même mouvement, il y a un désir sur lequel parfois moi je suis extrêmement sceptique, peut-être qu'on y reviendra, à vouloir toujours s'exprimer, dire constamment ce que chacun pense. Dès qu'une chose est énoncée, on tague, on commente. Voilà, cette dimension participative qu'on pourrait identifier selon deux niveaux. Il y a le niveau radical, c'est le niveau activiste, c'est-à-dire que les réseaux sont l'occasion historique formidable d'enfin faire payer les supposés puissants, c'est-à-dire essentiellement les États et les grandes compagnies, les entreprises. Quand on dit les États, ce sont évidemment les armées, donc avec des procédures de hacking, de participation. Wikileaks s'inscrirait dans ça. Et puis il y a une autre strate, plus soft, je dirais, qui correspond à, toujours à l'intérieur de cette logique de méfiance, qui correspond à, par exemple, cette affaire de 2007, où Ségolène Royal voulait instaurer des jurys citoyens pour évaluer les politiques, toujours à l'intérieur de cette méfiance l'enjeu serait de pouvoir monter le potentiomètre possible d'intervention de la population à l'égard des activités de nos élus.
Alors, puisque vous me parlez de hacking, eh ben je me saisis de cette occasion, Éric Sadin, pour vous faire écouter un bref extrait de l'interview d'un hacker cagoulé qui s'est filmé avec sa webcam, comme il se doit, tel un djihadiste en contre-jour. Mais lui, ce n'était pas un journaliste occidental qui l'avait pris en otage, mais il s'était attaqué à un site bancaire suisse, le site PostFinance, et donc on écoute tout de suite son intervention sur l'Internet.
La technique est plutôt simple. On utilise ce qu'on pourrait presque appeler un malware, une sorte de logiciel malveillant. En fait, les gens qui veulent contribuer à l'action le téléchargent sur leur ordinateur. Vous avez dû entendre parler de botnets. Le logiciel que nous distribuons est un botnet que les gens veulent avoir sur leur ordinateur. Je ne vous redirai pas le nom de notre programme. Je suis sûr que vous l'avez vu passer. Mais pour faire simple, le principe consiste à saturer le serveur en lui envoyant des tonnes et des tonnes de requêtes. Nous ne sommes pas vraiment organisés. Nous ne sommes même vraiment pas organisés. Mais si vous regardez notre forum de chat, en ce moment même, il y a 944 personnes. Et parmi ces 944, il y en a 400 qui sont en train de faire une attaque de déni de service sur des sites Internet. Le but, c'est d'attirer l'attention sur ce qui est en train de se passer avec Wikileaks. Et pas seulement avec Wikileaks, mais avec l'ensemble du problème de la neutralité du net. Nous n'aimons pas trop le fait que les agences du gouvernement tentent de rendre indisponibles des sites Internet qui fournissent des informations auxquelles tout le monde devrait avoir accès.
Alors Éric Sadin, parlons un peu de ces hackers, comme cette archive nous y invite. On sait qu'ils se sont constitués en groupe, les Anonymous, et qu'ils déclarent la première infoguerre en lançant des attaques contre les sites qui ont voulu faire taire Wikileaks, notamment Mastercard et Visa qui ont été bloqués. La question qu'on peut se poser, c'est qui sont ces guerriers virtuels et que signifie selon vous cette cyberguerre ?
Bon, alors moi, de mon côté, je ne parlerai pas de cyberguerre, je parlerai de cyberattaque. Parce que cyberguerre suppose quelque chose de planifié, déployé dans le temps. Alors, ce que ça signifie, je ne sais pas, mais ça marque au moins le fait que, que plus il y a de la sécurisation informatique, notamment par la sophistication cryptographique, hein, c'est-à-dire la capacité à créer des codes secrets, inviolables, qui interdisent a priori l'accès, plus il y a des personnes... Alors c'est vrai que ça peut avoir des côtés un peu sympathiques, mais enfin, pas que sympathiques d'ailleurs, qui s'amusent à suivre cette sophistication de sécurisation et qui détiennent les moyens. D'ailleurs, Assange, nous le savons tous, hein, s'inscrit dans cette histoire-là, dans ces pratiques-là, détiennent la capacité, passent beaucoup de temps à décrypter les codes et à violer les procédures de sécurisation.
Alors, au-delà d'être des simples joueurs qui s'amusent à décrypter, à décoder, un peu comme le cliché du geek, hein, de cet informaticien à grosses lunettes nous y invite, je voudrais encore vous taquiner sur l'enjeu politique qu'on peut peut-être trouver derrière la figure, derrière les cagoules de ces hackers qui postent des vidéos sur Internet, parce que certains de ces hackers, comme on vient de l'entendre, enquêtent sur le pouvoir, d'autres le punissent, c'est le cas de ce groupe Anonymous, et ils apparaissent comme une sorte de police du peuple autoproclamée. Mais est-ce que leur activisme, selon vous, est démocratique ou alors antidémocratique? Est-ce qu'ils veulent, selon vous, Éric Sadin, mettre le pouvoir démocratique à nu ou veulent-ils le détruire?
C'est extrêmement complexe. Hein, alors, votre question a une lourde portée. Je dis c'est complexe parce que, encore une fois de plus, il faudrait décomposer les types d'actions qui sont menées. Hein. Tout ce qui relève du activisme n'est pas du même ordre. Mais moi, je ne peux m'empêcher, malgré tout, de percevoir quand même, quelque chose qui est de l'ordre du ressentiment, toujours. C'est-à-dire... les supposés puissants. C'est toujours la même histoire. Hein. Moi, je veux bien qu'il y ait du storytelling, les sympathiques. Moi aussi, je l'ai dit, sympathique. Vous voyez, il y a presque une sorte d'orientation, d'impulsion naturelle à les trouver sympathiques. Mais bon, je pense que non pas l'antipathie, mais le ressentiment, c'est-à-dire la défiance, voire la haine à l'égard de ce qui... Je dis bien ce qui est supposé, hein, j'insiste sur les termes, de tout ce qui est supposé puissant. Donc, ce qui nous domine, hein, j'utilise à bon escient, enfin pas à bon escient, mais j'essaie de les utiliser le plus précisément avec tout ce que ça marque. Donc, les pouvoirs étatiques, les pouvoirs financiers, évidemment, la crise de 2008 ne fait qu'attiser cette haine ou cette défiance.
Donc on a affaire à quelque chose de nihiliste dans l'idéologie,
ludico-nihilisto, ressenti, enfin je ne sais pas comment nommer ça. Et encore, il faudrait distinguer.
Hein. Comment interprétez-vous, Éric Sadin, comment interprétez-vous le fait que Vladimir Poutine, à la tête d'un régime démocratique, mais on sait avec quelques limites, en ce qui concerne les droits de l'homme notamment, lui félicite Julian Assange et va jusqu'à lui proposer le prix Nobel.
Non, mais là, on est dans le comble du cynisme, on ne peut pas prendre ça au sérieux. Après, ce sont les effets collatéraux de cette affaire de Wikileaks qui date de 2 semaines, enfin, dans tous les cas, la divulgation
des câbles. Oui, qui mouillait également Poutine dans ses relations avec la mafia.
Donc là, on est, et j'ai même entendu, enfin, nous avons tous entendu Lula dire que c'est un héros de la liberté d'expression. Bon, là, on est dans le... Voilà, là, on, je... La précision, l'analyse sérieuse, on s'en éloigne au profit de positions idéologiques.
Mais concernant le pouvoir politique, justement, quelle est sa marge de manœuvre? Parce qu'on est vraiment dans l'illusion du pouvoir. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut interdire? Est-ce qu'on peut réguler? On a vu ces dernières semaines que Wikileaks était très difficilement bâillonnable, puisqu'il y a des sites miroirs qui dupliquent les informations. On nous annonce la sortie d'un nouveau site concurrent OpenLeaks. Et on sait que, par ailleurs, les juges fédéraux américains risquent de se heurter au premier amendement de la Constitution américaine s'ils décident une action en justice contre Wikileaks. Alors, quelle marge de manœuvre réellement?
Alors, les marges de manœuvre, d'un point de vue légal, on sait très bien que c'est très, très compliqué, notamment par des effets de stockage des données sur des serveurs multiples, avec des routeurs décentralisés. Enfin, les stratégies développées par Wikileaks, d'un point de vue technique et de comportement qui se développent, c'est passionnant d'assister à ça, hein, de voir la volatilité, le fait que des structures, nos structures, même nos structures conceptuelles, qui sont historiquement fondées, si on fait référence à Descartes, hein, sur l'identification, la séparation, la localisation, pour repérer les choses, pour les entendre, pour les appréhender. Là, il y a des dimensions qui s'effritent, voire qui s'effondrent.
Oui, parce que Julian Assange, rappelons-le, est en prison actuellement, en cellule d'isolement. Et pourtant, Wikileaks, son site, promet des nouvelles révélations l'information, une flopée de nouveaux documents ce soir. Et le Monde.fr, d'ailleurs, pour la France, se chargera de les mettre illico en ligne. Donc, c'est insaisissable.
Il y a quelque chose de l'ordre de l'insaisissable. Donc, le régime du droit et de son exécution est confronté à un cas de figure. Là, pour le coup, extrêmement nouveau. Mais ce qui me semble la grande nouveauté, c'est pas que les États soient soumis à des effets de fragilisation, etc. Ça, la cause est entendue sur ça depuis longtemps, d'où la sécurisation. Ce qui me semble nouveau, moi, dans cette affaire, c'est que ce qui est confidentiel... Alors, entendez bien ce que je dis là. Ce qui est confidentiel, à juste titre ou à tort, hein, mais je vais revenir dans 10 secondes sur ça, hein. Désormais, et ça, c'est, à mon avis, c'est ça historiquement l'événement, désormais est susceptible à n'importe quel moment d'être divulgué et d'une façon, à la vitesse de la lumière, c'est une image, mais c'est aussi dans les faits, extrêmement rapidement et extrêmement massivement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, des choses confidentielles, à juste titre ou non? Par exemple, si on fait un tout petit retour très bref, dans les retours du dimanche, un tout petit retour sur une époque assez lointaine, Watergate, hein, il y a de la divulgation. Hein, mais il y a de la divulgation de quoi? D'actes illégaux. Donc ça, c'est, on doit dire, dans nos sociétés démocratiques, il est bon que des actes illégaux, de surcroît menés par des politiques, de surcroît dans le cadre d'une campagne électorale, hein, là, en l'occurrence, les Républicains pour la campagne de 72, qu'il y ait une faute et qu'elle ait été identifiée par des journalistes et qu'elle ait été divulguée. Voilà. Maintenant, si on imagine d'autres dimensions qui appellent la confidentialité, mais qui sont susceptibles d'être divulguées. Ce matin, je pensais par exemple à la santé de François Mitterrand avant la fin de son deuxième mandat, 95. Les années 90, je crois qu'il s'appelait Gubler, le médecin. Vous rendez-vous compte si, par exemple, il les avait, ce qu'il a fait plus tard dans un bouquin, mais s'il les avait offertes à Wikileaks. J'insiste parce que nous sommes dans des jeux complexes là. Hein. Nous avons affaire à quoi là? Nous avons affaire au secret médical et nous avons affaire à un président de la République qui n'a pas exactement, quand je dis exactement, je suis prudent, qui n'a pas respecté son pacte moral, dans lequel il avait dit « tous les 6 mois, je serai honnête sur mon état de santé ». Donc, vous voyez ce balancier-là. Mais ce n'est pas du tout le même enjeu que celui du New York Times, du Washington Post pour le Watergate, ou même des télégrammes.
Non, mais donc, vous rappelez très fermement à ce micro, Éric Sadin, que en démocratie, même si les gouvernants se doivent à une certaine publicité, à la publicité de leurs actes, de leurs actions, il est quelques secrets qu'il est bon qu'ils puissent garder pour pouvoir continuer à faire leur politique.
Mais évidemment. Et ce n'est pas parce que c'est secret que c'est malfaisant ou que c'est pas...
Un complot contre le peuple.
Que c'est complot. Et ça va de soi. Je pense que nous comprenons là-dessus. Ou même que c'est malfaisant au bon fonctionnement de la démocratique. Maintenant, quand des choses sont opaques, secrètes, et que ce secret accompagne ou protège des actes illégaux, mais évidemment qu'il est bon que ce soit dévoilé. Mais quand ce sont des télégrammes diplomatiques, vous voyez, là, je distingue.
Et les warlogs,
alors. Ce que j'essaye de faire.
Les warlogs.
Pardon ?
Et les warlogs ?
Alors, les warlogs, c'est là encore, excusez-moi, nous avons 50 minutes, c'est beaucoup et c'est peu, parce que moi, je ne crois qu'au cas de figure. Hein, c'est-à-dire, les généralités, franchement, je pense que c'est une sorte de pathologie, en tous les cas, avec laquelle j'essaye toujours de prendre mes distances. Je pense au cas de figure, c'est-à-dire, warlogs, alors, qu'il y ait des abus, et qui relèvent presque du tribunal militaire, en tous les cas, maintenant qu'il y ait des pratiques militaires qui appellent à la confidentialité et qu'elles soient... Ce n'est pas le même régime. Vous voyez, ce qu'on appelle warlocks peut nommer... Mais je pense que l'exemple que j'ai donné pour la santé de Mitterrand, ce balancier, c'est-à-dire à la fois, il y a quelque chose qui mérite le secret, c'est quelque chose à laquelle nous tenons tous, hein, l'intimité médicale, le secret médical, et en même temps, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'information. Pense que dans les années à venir, juste pour terminer sur ça, dans les années à venir, Wikileaks est tout autre type de site de cette mission-là, de cet esprit-là, parce que la mission, je ne la saisis toujours pas, hein, vont être confrontés à ce balancier-là. Et je pense que le pire serait de dégainer immédiatement le réflexe liberté d'expression. Non, ce n'est pas possible. La question, c'est celle de l'exigence démocratique. Est-ce que nous pouvons évaluer, alors ça c'est ouvert au débat, comme certaines choses étant de l'ordre du cachet et du confidentiel pouvant faire l'objet d'une divulgation comme un acte possible, et d'autres comme étant de l'ordre de la vanité ou d'une sorte de, ou s'inscrivant dans une sorte d'orientation idéologique qui mérite à tout le moins un examen d'évaluation.
Alors, il est 18h34, bientôt 35. Vous écoutez France Culture, Les Retours du Dimanche, qui ce soir, en compagnie d'Éric Sadin, vous parle de Wikileaks et de notre civilisation, dont la transparence et la surveillance sont les deux mamelles. Mais tout de suite, c'est l'heure du kiosque. Agnès, votre kiosque remonte ce soir la pente des polémiques neigeuses de cette semaine.
Et ce soir, dans ce kiosque, pour trancher avec les révélations du cas Bloguette, un événement mainstream qui aurait pu être d'une affligeante banalité s'il ne s'était pas mué en une polémique dont la presse a fait son miel. Il a neigé de rue, mercredi à Paris, au point de provoquer une paralysie générale en Île-de-France. Une nouvelle dont nos quotidiens et journaux télévisés, dans un élan compassionnel avec les franciliens, se sont emparés pour faire leur une.
Et quel intérêt !
Nos éditorialistes ont redoublé de bons mots. La neige monte à la capitale, titre Libération, qui entend garder le leadership de la titraille décalée. Tandis que le Parisien adopte un « coincé », plus attendu, et que l'Ardennais ose le très distinguer, la neige, ça fout les boules. En plein sommet de Cancun, sur le climat, l'affaire aurait été vite oubliée si elle n'avait pas donné lieu à un mémorable cafouillage gouvernemental.
Allons bon.
Et ce qui a mis le feu aux poudres, c'est la déclaration de Brice Hortefeux, mercredi après-midi. Niant toute pagaille, il ajoutait que quelques problèmes se concentraient sur les routes lorsqu'elles sont inclinées. Au moment même, comme le rappelle Le Monde, où les télévisions mettaient en boîte des reportages sur les naufragés de la route, les sites web recueillaient des messages de détresse, les bus et le métro parisien se mettaient aux abonnés absents. Et François Fillon, depuis Moscou, d'en rajouter une couche, poursuit ironiquement le quotidien du soir. Il charge Météo France qui, selon lui, n'avait pas prévu cet épisode neigeux. En tout cas, pas dans son intensité. Alors c'était sans compter sur le désir d'investigation et l'esprit contestataire de notre presse qui, piqué de Wikileaks, ne veut plus s'en laisser compter. Sur Arrêt sur Image, Daniel Schneiderman publie le bulletin national de suivi de Météo France du mardi 7 décembre et affirme que ce document prévoyait bel et bien pour le lendemain des chutes de neige pouvant aller jusqu'à 10 cm. Fillon ment sur la neige et Météo France, titre Libération, tandis que de nombreux journaux étrillent Brice Hortefeux, le qualifiant de bison pas futé. Au passage, Ségolène Royal, qui ne perd ni le Nord ni son sens politique, réclame sur RMC et BFM TV des excuses publiques du Premier ministre et dénonce l'inertie coupable de l'exécutif. Certes, Nicolas Sarkozy a reconnu un décalage dans la réaction de l'État aux intempéries et le ministre de l'Intérieur a chargé l'inspection générale de l'administration de proposer les améliorations à apporter. Cela suffira-t-il à calmer les esprits ? Yves Tréhard dans Le Figaro s'interroge. Avons-nous à ce point perdu le sens de l'imprévu, du risque, de la vie ? Et en conclut que cet épisode est révélateur de nos peurs. En attendant le retour de la neige, que le journal du dimanche nous annonce pour mercredi, allez donc voir, pour tuer l'angoisse, la vidéo Montmartre Piste Verte, qui figure parmi les plus envoyées du monde.fr, où des Parisiens s'exercent au snowboard dans les rues escarpées de la butte Montmartre.
Merci Agnès. Éric Sadin, nous allons naviguer maintenant un peu plus loin que la butte Montmartre et ses snowboarders. Nous allons naviguer en direction des entreprises privées, parce qu'on le sait, les documents mis en ligne par Wikileaks révèle aussi les agissements troubles de grandes compagnies comme Shell, par exemple, dont on a découvert qu'elle espionnait avec beaucoup d'intérêt le pouvoir au Nigeria. Or, vous, Éric Sadin, dans vos ouvrages, vous vous êtes justement penché sur la transparence imposée aux internautes par les sites commerciaux qui collectent des données privées les concernant dans des bases de données marketing, entre autres. Alors, plutôt que le pouvoir politique, le véritable Big Brother de l'Internet, seraient-ils les firmes globales ? Et si oui, avec quels effets précisément politiques sur nos libertés ?
Ah oui, ça c'est évident. Il y a, en tout cas, il y a deux strates de niveau de surveillance. C'est la strate étatique, développée par les agences de renseignement.
Et qui enrage en ce moment de ne pas réussir à contrôler l'Internet. Hein. Fillon, il a parlé de neige, mais il a aussi parlé de vol et de recel à propos de Wikileaks depuis Moscou.
Je ne suis pas certain que les États veuillent contrôler l'Internet. D'ailleurs, la notion de contrôle, enfin bon, bref. Mais, et puis, il y a la... Alors, je parlerai moins de surveillance. Il y a la traçabilité des comportements collectés. La dimension de collecte aujourd'hui est extrêmement importante. C'est-à-dire, pour dire très simplement et d'une façon la plus concise les choses, de plus en plus de nos gestes aujourd'hui génèrent des traces numériques. Hein, et évidemment, les actes commerciaux, hein, que ce soit les achats par carte bancaire...
Est-ce que ça a un impact sur nos libertés?
Alors, sur nos libertés, ça a un impact sur la connaissance des individus. Ça a un impact sur, plus que sur la liberté, parce que notamment ce que je dis dans l'ouvrage Surveillance globale, c'est que paradoxalement, aujourd'hui, plus on agit, plus on est surveillé. C'est-à-dire plus on est libre, plus on est surveillé. Pourquoi je dis ça? C'est plus on produit d'actes, plus on produit de traces, plus elles sont stockées, analysées et elles autorisent en retour des alertes. Alors, des alertes sécuritaires, parce que ce qu'il faut savoir aussi, au passage, c'est que les agences de renseignement étatiques n'ont pas le droit, enfin, dans certains pays, aux États-Unis, en tout cas, c'est le cas aux États-Unis, par exemple, de collecter elles-mêmes des données de type commercial.
Mais elles le font indirectement.
Elles le font indirectement en les achetant. Donc, il faut savoir aussi que certains de mes actes d'ordre commercial peuvent avoir des connaissances sur la connaissance. De quoi ? D'une notion extrêmement importante dans notre contemporanéité, c'est celle de profil. Donc il y a des profils qui s'érigent, qui se modifient, qui s'actualisent à flux tendu. Donc là, il n'est pas du tout question de liberté. Hein. La surveillance aujourd'hui ne s'oppose pas du tout à la liberté. Elle s'oppose, ou en tous les cas, elle accompagne, ou elle marque, et elle favorise une connaissance et une pénétration des individus et des groupes hein, de plus en plus précises, et cela menait à deux échelons, si j'ose le dire. Ça, vous savez pourquoi je dis échelons
parce en rapport que, avec voilà, le réseau de surveillance échelons, planétaire voilà, américain. Voilà, il y a bien un Frenchlon aussi dans
voilà,
à plus petite échelle.
L'échelon étatique et l'échelon commercial.
Mais cette surveillance dont vous parlez, Éric Sadin, la surveillance globale, passe aussi par les réseaux sociaux. Il y a une campagne qui est diffusée sur Internet, que vous avez peut-être vue, qui a été menée par une association belge qui s'appelle Groupe de réflexion sur l'audiovisuel. Et cette campagne s'appelle « Facebook te fiche, ne t'en fiche pas ». Il s'agit de sensibiliser sur les enjeux de la face cachée de Facebook. Alors, c'est vrai qu'on sait que Facebook est bien plus utile que les fichiers de police. C'est dit par les détectives privés, parce que la CNIL ne peut pas les embêter. Que pensez-vous de cette servitude volontaire?
Il y a quelque chose comme une participation, une fois de plus ce terme-là, à l'intérieur de ce mouvement, où d'un point de vue social, culturel, anthropologique, on peut dire que s'associe, s'entremêle une dimension à la fois voyeuriste et exhibitionniste. Hein, c'est-à-dire les réseaux sociaux, notamment, hein, ont contribué à ce que chacun divulgue, on pourrait dire autrement, aussi expose de plus en plus d'informations à flux tendu. Hein, si vous allez sur Facebook...
L'essayiste Yann Moix, dans La Règle du Jeu, parle du fait de se livrer comme on se livre à la police.
Voilà, on peut dire ça. Il y a quelque chose qui est de l'ordre... Ou s'exhiber aussi. Parfois, il y a des choses extrêmement...
Est-on surveillé réellement?
Alors, est-ce que c'est de la... C'est pas de la... C'est... Alors, c'est capitalisé, ça. Hein. Enfin, selon des modèles économiques encore extrêmement sommaires, notamment pour Facebook. Mais là où nous serons pas tant surveillés que capitalisés, c'est quand, notamment les réseaux sociaux, et c'est le futur des réseaux sociaux, seront associés à des principes de géolocalisation. C'est-à-dire, et avec des effets d'alerte. C'est-à-dire, le profil est un environnement médical, de services, de rencontres, de personnes, de corps plus ou moins proches, et qui correspondent à des profils, feront que je vais être saturé de plus en plus par des alertes correspondant à mon profil et à ma localisation. Mais là, il est question surtout de quoi ? De l'assentiment individuel et collectif sur lequel une réflexion est à mener. Alors, elle est menée de façon très épisodique, parce que vous avez décrit là, des sortes de refus collectifs. Mais je pense qu'elle est à mener aussi par le législateur et aussi par chaque individu de savoir ce à quoi je suis prêt à délivrer ou à livrer de moi-même et ce à quoi, ensemble, nous pouvons dire aussi qu'il y a quelque chose qui relève de la part cachée, de ma vie privée, de mes propres activités qui n'ont pas à être au vu et au su, à être exposées au vu et au su et qui n'ont pas à être capitalisées non plus par des structures commerciales qui vont fonder, qui font déjà leur modèle économique sur l'exploitation et la capitalisation de ces données-là.
Ce soir, le choc esthétique de Soline Le Désert vous conduit tout droit à Roissy-Charles de Gaulle, explorer le musée de l'imaginaire terroriste. Stéphane Degouta et Gwenella Wagon, artistes infiltrés dans l'univers aseptisé de l'aéroport, y développent une application pour téléphone portable qui questionne la menace terroriste.
Prochain arrêt, Terminal 1.
Next station, Terminal 1. Please make sure that you have all of your luggage with you.
Stéphane Degoutin et Gwenola Wagon, nous sommes donc arrivés au terminal 1 de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle.
Bienvenue au musée du terrorisme.
Oui, bienvenue. Donc là, on va passer la porte qui est donc un petit peu comme l'entrée du musée. Une fois passé la porte, on rentre vraiment dedans. Donc c'est un musée virtuel.
C'est ça. Donc l'utilisateur a sur son téléphone portable une application qu'il a téléchargée sur Internet. Et avec cette application, donc son téléphone qui est doté de services de géolocalisation va voir où il est. Et en fonction de sa position dans l'espace, il lui envoie des sons qui sont les sons du musée du terrorisme.
Donc, en fait, c'est vraiment une question sur l'infiltration. D'un côté, il y a le fait qu'on s'infiltre dans un espace comme un clandestin, comme un terroriste ou comme une police. Et de l'autre côté, il y a aussi un jeu sur l'infiltration à double sens, parce que d'un côté, on a effectivement une menace qui risque d'infiltrer un réseau de circulation. Et de l'autre côté, il y a aussi cette infiltration qui vise à contrer la menace par un jeu de sécurité, de dispositifs qui eux-mêmes infiltrent les voyageurs, tous ceux qui prennent, qui vont vouloir circuler dans l'espace ou prendre un avion.
Oui, c'est en circulant dans l'aéroport qu'on déclenche les sons. Donc c'est vraiment le corps de l'utilisateur qui est le joystick ou la manette qui permet de déclencher tous ces sons. Parce que l'aéroport, c'est bien sûr un lieu dans lequel le corps, lui, est surveillé en permanence, il est scanné intégralement, il est contrôlé, il est mis dans des fils, à tout point de vue, d'un point de vue architectural ou technologique, le corps est complètement surveillé. Ensuite, il est placé dans un avion, puis envoyé à l'autre bout du monde. Et voilà, c'est une manière de reprendre un petit peu par son corps le contrôle de tout ça.
Alors, l'imaginaire terroriste, c'est en fait l'imaginaire qui est véhiculé par à la fois le fantasme du lieu de circulation où on va vouloir s'évader, s'envoler vers un ailleurs, contrecarré par le biais d'une espèce d'architecture qui prend en compte toutes les menaces possibles et inimaginables. Ça peut être un virus, ça peut être un attentat, ça peut être toutes sortes d'empêchements possibles de la circulation et qui créent des parasitages possibles, mais qui sont très peu là en termes de statistiques.
C'est des lieux qui sont tellement aseptisés, tellement propres, etc., qu'on a, voilà, on a vraiment l'impression qu'ils vont être la menace d'une attaque. Forcément, tellement ils ont évacué cette question, ça ne peut qu'arriver d'une certaine manière.
En fait, l'aéroport, on l'imagine peuplé de fantômes, où il y aurait le fantôme de Baudrillard qui croiserait le fantôme d'Orwell ou les fantômes de Ballard. Et puis après, il pourrait croiser Virilio, qui est encore vivant, mais qui pourrait avoir par sa parole un aspect aussi fantomatique. Et puis, il croiserait peut-être des paroles de coupure de presse, qui sont des paroles qui vont peut-être être médiatisées, amplifiées, voire déformées par la succession de messages ou de cryptages de ces paroles-là. Et tout ça créerait comme ça un orchestre assez fascinant dans lequel on a envie de naviguer, quoi.
C'est un musée, mais on pourrait aussi appeler ça un essai géolocalisé d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on prend des pensées et on les met dans l'espace où elles ont une pertinence.
En fait, l'aéroport, c'est comme un lieu métaphorique qui, après, peut se retrouver dans plein d'autres lieux. Il y a l'effet aéroport, le phénomène aéroport, faire aéroport, imiter l'aéroport, etc. Donc ça peut être les malls, le shopping, les grands musées d'art contemporain internationaux, les grandes gares, etc., qui reprennent les dispositifs et les phénomènes aéroports. Donc là, on est vraiment dans un aéroport, un vrai, mais ces dispositifs-là, on peut les retrouver dans tous les lieux mondiaux d'interconnexion forte, dans tous les pays, et qui s'étendent un peu à toute la planète, et qui sont en plus en réseau entre eux, en fait, parce qu'ils forment eux-mêmes des réseaux, des circulations internes, etc.
Éric Sadin, êtes-vous, à l'instar de Stéphane de Goutin et de Gwenola Wagon qu'on vient d'écouter, êtes-vous vous-même fasciné et repoussé par les aéroports, ces lieux où la surveillance est telle qu'elle appellerait la catastrophe?
Ah oui, c'est fascinant, c'est fascinant. Stéphane et Gwenola sont des bons amis, j'apprécie beaucoup leur travail. Oui, oui, c'est fascinant parce qu'on a presque l'impression que c'est un espace d'intensification. Alors, d'intensification de toutes les procédures à l'œuvre, c'est-à-dire l'interconnexion avec les réseaux Wi-Fi, les avions interconnectés, les bagages connectés, enfin des...
Et tous les réseaux de transport.
Voilà, ces hubs-là. Par exemple, le hub de Roissy 2 est fascinant d'un point de vue architectural lié au réseau, le réseau informatique. Évidemment, la géolocalisation, évidemment, la vidéosurveillance, intelligente d'ailleurs, avec des systèmes d'alerte. Évidemment, les procédures biométriques. C'est-à-dire des nouvelles procédures d'indexation des corps avec le réseau Paraf dans les aéroports de Paris maintenant, c'est-à-dire pour faciliter les flux de circulation, etc. On ne présente plus le passeport, etc. Avec l'assentiment.
Et donc il y a votre assentiment, vous aimez être détaillé sous toutes les coutures en vous promenant dans les aéroports parisiens par exemple?
Pas particulièrement, mais de voir le système. Effectivement, on se dit qu'un système à ce point sophistiqué, c'est toujours la même histoire, peut être déjoué. Regardez Logan Airport de Boston, 2001. Il y avait de la reconnaissance faciale pour la vidéo. Et certains des terroristes de l'aéroport de Boston qui sont montés dans l'avion étaient indexés. Enfin, leurs photos étaient... Et ça n'a pas marché. Donc, système hyper sophistiqué. Et on peut dire aujourd'hui que plus il y a de la sophistication, plus il y a de la vulnérabilité associée.
Alors, concernant cette vidéosurveillance dont vous nous parlez, il y a aussi la nanotechnologie, la géolocalisation, vous y faisiez allusion. On a l'impression qu'on est vraiment rentré, comme vous l'écrivez, dans l'ère de la surveillance globale, où les individus et les groupes sont devenus des chiffres et des échantillons réduits au langage numérique, comme le prédisait d'ailleurs Deleuze. Et vous écrivez que on est suivi, que tous les individus seraient suivis par leur ombre digitale. Mais au fond, est-on vraiment surveillé? Par qui et puis dans quel but surtout?
Alors c'est moins d'être suivi que nous constituons des ombres digitales. C'est-à-dire qu'à flux tendu réactualisé, il y a ces stocks de données dont nous avons parlé tout à l'heure, qui sont constitués par quantité de nos gestes quotidiens. Il y a, au cours d'une journée, on pourrait les dénombrer. Ils sont extrêmement nombreux, ils sont extrêmement pluriels, divers. Et ils sont capitalisables. Alors, ils sont capitalisables de plus en plus. Je crois que vous vouliez parler de la dimension anticipative.
On y reviendra, oui.
Bon, parce que la dimension de surveillance, elle est là. Dans un premier temps, il est question de capitalisation.
C'est-à-dire qu'on nous réduit à une ombre digitale et partant à une marchandise.
Exactement, avec une notion contemporaine capitale qui est celle de l'alerte. C'est-à-dire l'alerte, c'est celle de relativement à des profils et à des algorithmes, de saisir ce qui est nommé une pertinence. Et ce relativement à une pertinence, il y a une alerte qui est faite. Alors soit à l'égard d'un consommateur, soit à l'égard d'un groupe qui va se charger d'envoyer un autre type d'alerte.
Martin, les chemins qui mènent ailleurs, votre chronique a pour titre « La poitrine invisible du marché ».
En effet, quand vous recherchez « transparence » sur Google, vous avez d'abord droit à des vidéos de poitrine en transparence de présentatrices télé. À vrai dire, sur l'écran, on ne voit rien. Et précisément, tout est là, mais j'y reviendrai. Quand vous cherchez maintenant l'actualité associée au mot « transparence » dans le même moteur de recherche, vous tombez sur la transparence subtile de la robe de l'actrice américaine Eva Mendes. L'impression de déjà-vu le dispute alors à la déception. Et puis, vous tombez dans une « dark pool », une piscine enténébrée. Non, il ne s'agit pas du repère de quelques poissons à grandes dents habitués des eaux profondes, quoique. Les dark pools sont des systèmes de négociation parallèles aux bourses réglementées qui permettent à un nombre restreint de grands investisseurs de réaliser des transactions sans que les conditions de celles-ci soient immédiatement publiques. Vous me suivez ? Les dark pools sont nés de la dérégulation des activités financières depuis les années 80, dérégulation associée à l'électronisation des transactions. Et comme leur nom l'indique, ces lieux de baignade sont opaques. Il est d'ailleurs amusant de constater que les dark pools ont été légalisés en 2007 par la directive européenne Marché d'instruments financiers, la MiFID, au moment même où se déclenchait la crise des subprimes.
Ainsi donc, les marchés financiers seraient les seuls à échapper à l'impératif de transparence auquel on entend soumettre aujourd'hui les citoyens et leurs représentants démocratiquement élus.
On a pu le penser, Agnès. Thomas Peterfi, le fondateur de la société Interactive Brokers, a même récemment déclaré « La bourse est devenue un casino géant, sauf que le fonctionnement d'un casino est plus transparent et plus facile à comprendre. » Et le patron de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, Jean-Pierre Jouyet lui-même, lui emboîte le pas cette semaine dans les colonnes du journal Le Monde. Je le cite « On ne sait pas qui achète quoi et à quel prix ». Et il ajoute même, aujourd'hui, on estime que 44% des transactions sont invisibles et le problème de transparence induit par la directive MiFID est sans doute le plus inquiétant.
Eh bien, Martin, me voilà inquiète à mon tour.
Pourtant, Agnès, depuis un an, la Commission européenne a déjà créé 4 nouvelles autorités de supervision des marchés et mercredi, elle vient de lancer une vaste consultation visant à réformer la directive MiFID. Alors, pourquoi se dire inquiet ? Sans doute parce que, dans la finance, les contraintes visant à imposer la transparence ne font jusqu'ici que stimuler l'inventivité des opérateurs pour assurer le secret de leurs activités. La main invisible du marché. Ça vous dit quelque chose ? Et si, avec cette intrigante expression, Adam Smith avait pressenti l'avènement des black box et autres automates de trading, les messes basses des hedge funds, les cachotteries des initiés et les ententes secrètes sur les prix entre firmes de téléphonie ? Ecce homo. En matière d'argent comme de sexe, quand on vous promet la transparence, attendez-vous à voir un bel écran de fumée.
Merci Martin. Alors Éric Sadin, la chronique de Martin nous a parlé de transparence, des marchés financiers, mais aussi des poitrines de présentatrices.
C'était passionnant.
Et moi, je voudrais maintenant que vous nous parliez un peu du recul du secret, de la part cachée d'entre nous, grâce entre autres à des algorithmes susceptibles de projeter des comportements positifs. Alors que même ces comportements n'ont pas encore été adoptés par les individus. Et on voit bien que l'enjeu n'est donc plus de surveiller et punir, mais de deviner et prévoir. Et si tel était le cas, si cette précognition des actes à la Minority Report de Spielberg était effective, on devrait donc pouvoir déjouer tous les attentats, arrêter tous les Julian Assange, et ne pensez-vous pas donc que ça se heurte à l'imprévisibilité, à l'ambiguïté des individus qui sont quand même susceptibles de résister, enfin du moins, je l'espère, à tous ces algorithmes.
Évidemment. Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Il y a d'abord une tendance très forte. Alors, vous parliez des marchés financiers, il y a le flash trading, dont Virio a parlé pour le
trading à haute fréquence.
Voilà, alors l'idée, c'est que nous savons très bien que les marchés financiers, leur souci, c'est deux choses. C'est de voir en premier une baisse éventuelle ou une montée éventuelle, et ce, avant tout le monde. Mais ça s'accompagne d'une tendance générale, aussi bien dans le champ sécuritaire, de récolter des données, pourquoi ? Non pas seulement pour voir des états de fait, mais pour pouvoir intervenir en amont. Et d'un point de vue commercial aussi, de pouvoir pressentir à l'intérieur d'une dimension précognitive. Là-dessus, Philippe K. Dick est un écrivain absolument formidable.
Écrivain de science-fiction américain.
Dans le film éponyme Minority Report de Spielberg, on voit bien ça, c'est-à-dire les machines, grâce aux algorithmes et aux données collectées, toujours la même histoire, sont susceptibles de pouvoir deviner vos besoins et désirs enfuis et peut-être non encore formulés.
Alors pour conclure, évidemment, sur la capacité des humains à résister...
Alors, il y a
déchiré cette ombre digitale.
Alors d'abord, il y a la déficience des machines, il y a des trous, il y a toujours des trous. Hein, ça, c'est pour ça que quand on croit au complot...
Bonne nouvelle.
Mais évidemment, c'est structurel. Hein, c'est-à-dire, il y a des déficiences. Hein, plus on sophistique, plus il y a des déficiences. Et puis, il y a le fait que, la part cachée, qui aujourd'hui, quand on ne rencontre pas quelqu'un, tape sur Google. Donc, nous tous participons du fait que nous sommes de plus en plus informés à l'égard des autres. Or, il me semble que la case vide, comme dirait Deleuze à propos d'Alice au Pays des Merveilles, parler, c'est-à-dire qu'il y ait du manque, qu'on ne sache pas tout, eh bien là, il y a quelque chose d'anthropologique qui attise beaucoup plus le désir, l'intérêt, plutôt que la surinformation relativement aux uns et aux autres et à nos actions.
Merci Eric Sadin.
Merci.
Merci également à Stéphane Degotin et Gwenola Wagon.
Vous pouvez retrouver les ouvrages de notre invité, La surveillance globale, Enquête sur les nouvelles formes de surveillance, édition Climat en 2009, et également Global Paranoia, édition Les Petits Matins en 2009.
Les facéties terroristes et artistiques de Stéphane Degotin et Gwenola Wagon sont, eux, elles, à retrouver sur le site internet nogoland.com.
C'était les Retours du Dimanche, une émission produite par Agnès Chauveau
et Martin Kénéen.
Réalisation Jean-Christophe Francis.
Collaboratrice spécialisée Céline Le Désert.
Et à la technique, Jean-Sébastien Ragot.